Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le chapitre 12 de l'Apocalypse est certainement un des plus connus, puisqu'il s'agit du grand signe qui apparaît dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Cette image est connue, on y voit très souvent la très sainte Vierge. Cependant, ce n'est pas elle que le Saint-Esprit voulait décrire, mais l'Église. Certes, il est tout à fait normal que les prédicateurs appliquent cette image à la très sainte Vierge, car il y a une grande ressemblance entre la Sainte Vierge et son œuvre auprès des chrétiens, et l'Église et son œuvre à elle également auprès des chrétiens. La Sainte Vierge a engendré notre Seigneur Jésus-Christ, et elle devient par conséquent la mère des membres du Christ, des membres du corps du Christ. Vous connaissez évidemment cet enseignement de l'Église, et de l'Écriture sainte surtout, que nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit que puisque la très sainte Vierge est la mère de la tête, elle est nécessairement la mère des membres. Il est également normal de voir la très sainte Vierge dans la femme revêtue du soleil, la femme de l'Apocalypse, puisque nous savons, et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort l'a rappelé, que la Sainte Vierge aura une importance particulière à la fin du monde, et notamment dans la lutte des derniers temps. Il y a beaucoup de raisons à cela, une des principales étant justement de glorifier la Sainte Vierge pour son rôle maternel qu'elle a tenu tout au long de l'histoire de l'Église, et Dieu voudra lui donner un triomphe particulier, qui éclatera d'autant plus brillamment que ce sera au milieu des persécutions dans un combat gigantesque. Il y a d'autres ressemblances également entre la femme de l'Apocalypse et la très sainte Vierge. Cependant, les pères de l'Église voient tous dans la femme de l'Apocalypse l'Église. Ce chapitre 12 décrit à la fois les luttes dernières des derniers temps de l'Église, mais également et peut-être même surtout l'ensemble de l'histoire de l'Église qui est une lutte continuelle. Si nous nous rappelions que l'Église a toujours été en lutte, qu'elle a toujours subi les assauts du démon, nous serions certainement un peu moins troublé, désarçonné par la vigueur et par la malice des ennemis de l'Église aujourd'hui. Cette femme qui est revêtue du soleil, le soleil c'est le Christ, c'est également les saints, les apôtres, qui lui donnent une lumière. La lune est sous ses pieds. La lune c'est le monde changeant. Et le soleil, lui, ne change pas, il est toujours plein, entier, on le voit ou on ne le voit pas, mais il est toujours plein, entier. La lune, elle n'est pas toujours pleine, elle croit et elle décroît, de notre point de vue, bien entendu. Mais enfin, c'est vrai que nous la voyons plus ou moins éclairée par le soleil. L'Église porte un fruit dans son sein, évidemment, puisque elle engendre les hommes à la vie éternelle. À la vie divine, ici-bas, mais la vie divine, c'est déjà un début de vie éternelle. Puisque les hommes, par le baptême, les chrétiens, sont temple du Saint-Esprit et temple de la Sainte Trinité tout entière. Elle criait dans le désir de l'enfantement. Ce n'est évidemment pas un cri de douleur, sauf si on voit la douleur de l'Église qui est une mère et qui voit tant et tant de ses enfants se perdraient. Mais bien plus proprement, l'Église crie. compris le message du salut. Et il est vrai qu'il faut être sourd pour ne pas entendre ce message et aveugle pour ne pas le voir. Malheureusement, et c'est une des choses qui me frappe à la lecture des commentateurs de l'Apocalypse, le démon se sert de l'Église pour damner les âmes. Alors non, évidemment, il ne se sert pas de l'Église. Il se sert d'hommes d'Église. Les hérésies sont vraiment une astuce diabolique parce que les hérésies sont prêchées par des hommes d'Église, la plupart du temps par des hommes très éminents, qui sont dignes d'être écoutés, au moins dignes en apparence, auxquels les chrétiens accordent leur confiance, et ces hommes vont faire semblant de prêcher le Christ, semblant de prêcher le salut, et même si ce procédé a été plus ou moins grossier, par exemple avec le protestantisme, il a été très efficace, il a été beaucoup plus subtil avec le modernisme et encore plus efficace. Avec le modernisme, le démon a réussi à donner des couleurs spirituelles et même chrétiennes à une profonde révolte contre Dieu. Et le dernier en date, c'est de ce personnage éminent qu'est celui qui est assis sur le trône de pierre, le pape Jean XXIII, le bon pape Jean, le pape Paul VI, Jean-Paul II, qui attirait les foules, et que tout le monde, pas le monde entier bien sûr, heureusement, mais un grand nombre de chrétiens ont considéré comme un saint, au point de réclamer sa canonisation immédiate, santo subito, qu'on le canonise immédiatement, ce qui fut pratiquement fait. Benoît XVI, n'en parlons pas, il a paru aux yeux des chrétiens pour un traditionnaliste. Lui, le révolutionnaire gnostique, lui qui ose déclarer qu'on ne peut pas parler de transsubstantiation à propos du mystère de la Sainte Eucharistie, car la substance, c'est une notion surannée. Et dans son livre « Lumière du monde », il dit que l'Eucharistie, la présence réelle, est une force. Enfin, ce que nous appelons la présence réelle, c'est une force. Alors ça paraît, on s'en aperçoit pas à la première lecture. On dit, bah oui, effectivement, l'Eucharistie donne la force contre le mal. C'est ce qu'il dit, l'Eucharistie a donné la force aux saints et particulièrement aux martyrs. Mais il ne dit pas qu'en réalité l'Eucharistie donne la force, il dit qu'elle est une force. Et ça, c'est hérétique. C'est hérétique parce que l'Eucharistie est une substance. C'est la substance du Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, parce que c'est tout cela qui fait la substance du Christ. Que cette substance donne la force, oui, mais elle ne fait pas que cela. Elle donne la lumière, elle donne la charité, elle donne l'espérance, elle donne la douceur, elle donne la justice, elle donne toutes les vertus. Et surtout, elle se donne soi-même, et nous possédons Dieu par la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie entretient la présence de la Sainte Trinité tout entière dans nos âmes. C'est donc vraiment un génie diabolique qui a réussi dans ces derniers temps ce qui avait été commencé moins clairement avec les ou moins finement avec les hérésies précédentes, à savoir de se servir des hommes d'Église éminents qui passionnent les foules, qui attirent les foules, auxquels on donne un grand crédit. Jean-Paul II est crédité de la chute du mur du rideau de fer et du mur de Berlin. Et par eux, le diable trompe les hommes et les perd. Cette remarque des pères de l'Église dans leur commentaire sur l'Apocalypse est très importante et je voulais absolument vous en faire part puisque ces sermons sur l'Apocalypse font la suite des sermons, le prolongement des sermons sur l'Église Et vous comprenez pourquoi, dans ces derniers temps, le démon a suggéré, a incité, a donné au pape dans l'Église une place démesurée qui ne lui revient pas et que le Christ ne lui a pas donnée. Le démon a réussi presque à identifier la foi en Jésus-Christ avec l'acceptation de la parole du pape, la fidélité à la parole du pape. Et cette erreur sur la place du pape dans l'Église est fondée sur une erreur sur la nature même de l'Église, et c'est ce qui a permis aux démons d'entraîner des millions d'hommes dans l'erreur moderniste, un grand nombre parmi eux en enfer, hélas, probablement. C'est à cause de cela qu'on voit l'immoralité avoir pénétré dans le sanctuaire et dans le clergé. Et s'il y a eu un nombre plus ou moins grand de prêtres qui ont commis des péchés contre nature, y compris avec des jeunes, faut pas oublier tous ces péchés de prêtres qui ont été étalés à la face du ciel et à la face du monde, avec des milliers de prêtres qui se sont mariés, qui ont violé leurs engagements, on peut dire leurs engagements d'être mariés avec l'Église, d'être eux qui tiennent le Saint-Sacrement, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même dans leurs mains. Donc, je ne sais plus bien où j'en étais. Toujours est-il que je vous disais que l'Église crie dans le désir de l'enfantement. Elle souffre de voir tant de ses enfants qui se perdent. Il apparut un autre signe dans le ciel. Et voici un grand dragon roux qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur 7 têtes, 7 diadèmes. Ce diadème, c'est ce que je vous disais, il se fait passer pour un roi. Les têtes et les cornes, selon les interprètes, ce sont les rois et les royaumes, mais c'est également les péchés capitaux, et ce sont les complices du démon. Dans tous leurs commentaires, les pères de l'Église rappellent que les hommes mauvais sont les complices du démon. Ces complices sont plus ou moins conscients, on devrait dire plus ou moins aveuglés. Certains sont les complices du démon, voire les complices du démon, et la distance fait qu'ils n'ont pas vraiment l'impression d'être des complices du démon, cependant c'est bien ce qu'ils sont. Sa queue entraînait le tiers, la troisième partie des étoiles du ciel, c'est-à-dire des saints qui vont tomber, enfin des saints. Les saints désignent dans l'Écriture soit les saints canonisés ou canonisables, soit tout simplement ceux qui ont été baptisés et qui vivent de la sainte grâce de Dieu. Ceux-là, lorsqu'ils tombent dans le péché, ils font partie de cette troisième partie de l'Église, ce tiers de l'Église. Ils étaient des étoiles dans le ciel et ils tombent. Et le démon les jette sur la terre. Il les jette sur la terre et ils vont accomplir son œuvre sur la terre. Le dragon démon, se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévora son fils. Lorsqu'on a compris que les enfants de l'Église, ce sont tous les chrétiens, l'image n'a pas besoin de commentaire, le démon attend. Alors pourquoi on dit son fils au singulier? Parce que tous les chrétiens sont les membres d'un seul corps, le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église met au monde un fils du sexe masculin. Remarquez, ce fils du sexe masculin, il y a une répétition, parce que toutes les âmes sont masculines, parce que toutes les âmes sont fortes, parce que ce qui est féminin dans une âme, je ne parle pas dans la nature, ce qui est féminin, c'est ce qui est sensuel, faible. Ça ne convient pas à une âme qui est appelée par Dieu au ciel. Et ce fils, c'est-à-dire tous les chrétiens, sont enlevés vers Dieu et vers son trône. C'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ, la tête du corps mystique, qui est élevé vers Dieu et vers le trône, mais c'est également tous les bons chrétiens qui sont déjà un peu enlevés vers Dieu et vers le trône, qui n'appartiennent plus vraiment à la terre, ils sont sur la terre, mais ils ne lui appartiennent plus. Ils vivent sur la terre, mais ils ne vivent pas de la vie de la terre. Ils ne vivent pas de la vie du monde, ils vivent de la vie de Dieu. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait une place préparée par Dieu. Et je vais terminer là-dessus, mes bien chers frères. On imagine une femme qui fuit le combat, l'Église fuit le combat de Satan. C'est pas tout à fait cela. Suivant les interprètes, le désert, la solitude du désert, c'est le cœur des chrétiens. C'est-à-dire que l'Église est obligée extérieurement de ne plus paraître, mais elle continue à vivre puissamment dans le cœur des bons chrétiens. Et là, le démon est impuissant à l'atteindre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'était déjà le cas à l'époque de saint Athanase, qui face aux Ariens disait « Ils ont les églises, mais nous, nous avons la foi ». Monseigneur Lefebvre l'a répété lorsque nous avons dû établir nos chapelles de fortune dans des garages ou des poulaillers ou des laveries. Et Monseigneur Williamson, dans un sermon à Rennes, après avoir béni une église de la tradition, disait « Vous êtes content d'avoir désormais une belle église qui est sortie de terre et de vous montrer au grand jour, méfiez-vous, parce que si vous veniez à vous affadir dans la foi, le bon Dieu, dans sa grande bonté, vous ferait retourner dans les caves et les garages. » Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons été obligés de nouveau de quitter non pas les belles grandes églises romanes et gothiques, mais les églises que nous avions réussi à faire sortir de terre, et de rentrer de nouveau, non pas dans la clandestinité, parce que l'Église ne sera jamais clandestine, elle est toujours apôtre, elle prêche, elle crie. C'est ce que dit l'Écriture sainte, là. La femme crie dans le désir de l'enfantement. L'Église ne cessera jamais de crier. Donc elle ne sera jamais dans la clandestinité. Mais le démon pourra occulter son côté visible, et l'Église sera à ce moment-là vivante, non pas de façon visible extérieure, mais dans les cœurs des chrétiens. Il y a une autre interprétation pour ce désert, à savoir que le désert, c'est le monde. C'est le monde parce que dans le désert, il y a des serpents, des scorpions. Le désert est aride, effectivement, le monde est aride. Si on n'a pas la doctrine de Jésus-Christ, le monde est aride. Il offre tous les plaisirs des sens, mais ces plaisirs sont des plaisirs desséchants. Et à ce moment-là, selon cette interprétation, l'Église, loin de fuir le combat, au contraire, va dans le monde, elle s'établit dans le monde, parce qu'elle ne laissera jamais tomber ceux qui, tant qu'ils ne sont pas morts, peuvent encore être sauvés. Ces deux interprétations sont parfaitement compatibles, parce que lorsque l'Église s'établit dans le désert de ce monde, au milieu des scorpions, des serpents et dans ce monde aride, c'est dans le cœur des fidèles, qui sont avec elle donc au milieu du monde, c'est dans le cœur des fidèles qu'elle continue à vivre justement pour donner vie à ce désert. Mes bien chers frères, ce combat va se renouveler une fois de plus durant la semaine sainte, plutôt nous allons renouveler notre union au Christ, le premier de tous les combattants. Lui aussi est descendu dans le désert de ce monde, il ne l'a pas fui, mais il vivait dans le cœur de ses fidèles, et cette vie dans le cœur de ses fidèles a communiqué à ce monde la grâce qui en a fait en partie un ciel, en partie seulement, puisque toute une partie, au contraire, s'est damnée. Comme le dit l'Apocalypse, le serpent avec sa queue a entraîné à sa suite un tiers des fidèles. C'est pour cela que je voulais vous faire ce sermon avant la semaine sainte, pour que, loin que vous soyez découragés, au contraire, la célébration de la passion et de la mort de notre Seigneur ne soit pas seulement un souvenir, pas seulement une célébration, mais qu'elles nourrissent profondément vos âmes à l'intérieur, sans que pour autant vous ayez à quitter le désert de ce monde, y compris le désert de tant d'hommes d'église qui sont des scorpions et des serpents. Notre-Dame, couronnée de 12 étoiles, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, convertissez les pécheurs.